Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Depuis que je suis 13 ans, très jeune, toujours au 1er mai, qui est d'abord la fête des gens qui travaillent.
Trois causes, trois raisons pour lesquelles vous êtes là.
Pour plus de sous, pour des assos comme les ateliers d'autoréparation qui ont du mal à survivre.
Moi, la première raison, c'est parce que c'est le 1er mai, donc c'est la fête de la lutte pour les droits des travailleurs, travailleuses. Donc voilà, bah en fait, c'est pour préserver des acquis ou alors pour les célébrer malgré le fait qu'ils sont en train d'être mis à terre. Donc c'est pour se rappeler aussi que bah, c'est pas la fête du travail, c'est la fête de la lutte pour les droits des travailleuses. Et que bah voilà, c'est quelque chose qui est hyper beau, genre qu'on ait pu avoir autant de droits et qu'on pourrait en avoir beaucoup plus. Et c'est pour rappeler qu'en fait, c'est possible d'avoir un État qui soit pas complètement capitaliste et qui nous phagocyte en tant qu'humain, quoi. Voilà. Et ouais, et comme disait S, contre la mise à mal de tout ce qu'on a acquis et pour continuer à avoir plus de droits et pour une société qui soit bah, plus saine, quoi, dans laquelle on travaille moins et dans laquelle on gagne plus. Et en fait, c'est possible parce que de l'argent, il y en a, en fait.
Ce que représente le drapeau là avec le tigre?
C'est le drapeau du peuple tamoul de Sri Lanka, parce qu'on est un peuple. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas reconnu contre la nation. On lutte pour la reconnaissance de la nation tamoul. Et c'est notre drapeau. C'est ce qui nous identifie comme un peuple qui a lutté. Qui a lutté, qui a été massacré. On est en train de vivre un génocide. Épuration ethnique dans notre pays. Et on est victime. Si on est là aujourd'hui, ce n'est pas par plaisir. On a oublié de quitter le pays pour nous protéger, mais il reste encore des familles là-bas. Alors on est là pour donner notre voix à eux et à tout le monde, comme les peuples palestiniens, comme tous les peuples qui luttent pour leurs droits.
Alors écrit sur ma pancarte, sans toi, le patron n'est rien. Garde-toi fier. ça, je veux dire, c'est pas le patron qui dit, ah ben pas dans ma petite vie.
Bonjour, on parlait de vous.
Donc, parce que je, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. On culpabilise tellement les gens dans leur travail. Il faut faire plus vite, il faut faire mieux, il faut être... Vous êtes trop payé, vous êtes... C'est trop culpabilisant, alors que sans vous, le boîte pas trop, il n'y a rien.
Je viens de rappeler les bases. Merci beaucoup.
Si, c'est important. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me décrire, du coup, ce que vous avez amené là pour la manif?
On a amené un char, un triporteur avec une enceinte, des pancartes différents et variés qui nous identifient comme le bike bloc. On fait le bike bloc, c'est un petit cortège organisé par les ateliers d'autoréparation et qui a commencé par les manifs contre la loi de la retraite, de la sur la retraite. Et du coup, on vient en vélo pour faire voir notre présence.
Et j'ai vu, je crois, une pancarte contre les JO. Vous voulez un peu en parler?
Ouais, la majorité des ateliers qui sont présents, ils sont dans le 93 et de Paris. Et en fait, les JO, c'est un vrai massacre écologique et social pour l'entièreté des personnes qui habitent à Paris et dans le 93. Et donc, du coup, nous, on est absolument contre ce genre d'événements qui se font au détriment des gens. Et c'est vraiment hyper capitaliste. En plus, le 93 souffre énormément de ça parce qu'il y a une répression énorme, il y a de la surveillance énorme. En fait, c'est des intérêts qui servent juste les grosses boîtes de surveillance capitalistes et qui sont en train de créer des précédents sur de la surveillance, de la reconnaissance faciale, de l'arrêt des personnes qui sont non conformes à ce qu'on aimerait, c'est-à-dire des personnes blanches, riches, et qui vont consommer, quoi. Et donc nous, on n'est pas ces gens. Et donc du coup, voilà, on est contre.
C'est quoi le stand exactement?
Alors en fait, là aujourd'hui, Saccage 2024 avait envie d'être dans la manif du 1er mai. Pour voilà, l'idée c'est de faire un 1er mai anti-olympique. Donc on a essayé de faire circuler des appels. D'autres gens ont fait un peu les mêmes appels, mais l'idée c'était que ça fasse une date forte, en sachant que ça va être suivi par toute une semaine. En fait, il va y avoir des actions pour la flamme le 8 mai. Il se passe des choses à Marseille, mais nous à Paris, on fait aussi un goûter anti-olympique. Enfin, il va se passer plusieurs trucs. Et ça va jusqu'au 12 mai, où en fait, il y a le boxon à la parole errante qui fait un week-end anti-olympique dans lequel on est aussi. Donc l'idée, c'était de marquer une date forte aujourd'hui avec ça. Et pour ça, en fait, on a fait un cortège qui est parti avec un cortège intersquat qui est venu ce matin et qui est toujours dans la manif. Donc en fait, on a deux points aujourd'hui avec Saccage. Il y a et des gens qui sont dans la manif avec une batucada et un point fixe où l'idée, c'est de pouvoir voilà, tracter, montrer les stickers, diffuser la carte dont on vient de faire une version 2 et voilà, et faire de la com et pouvoir discuter aussi okay. Plus avec les personnes qui ont envie d'avoir les arguments, quoi. De toute façon, nos revendications elles sont simples, hein. C'est annulation des JO. Enfin, en fait, c'est le No Olympics Anywhere, c'est ni ici ni ailleurs. C'est on arrête les JO de Paris et on arrête toutes les prochaines éditions. Ouais, en fait, c'est assez simple que ça. Hein. Et ce qu'on dit souvent, c'est si on n'arrive pas à arrêter ceux de Paris, de faire en sorte que ce soit les derniers. Le gros enjeu, là, ça va être les Alpes. Parce que même si pour l'instant, c'est validé, c'est pas officialisé, donc il y a plus de chances de faire poids. Et ils doivent valider ça cet été. Ça devrait le faire, ils devraient le valider au début des Jeux. Donc en vrai, si on arrive à faire en sorte que les Jeux de Paris se passent mal, ou qu'en tout cas, il y a une grosse contestation, ça peut faire bouger aussi le fait de ne pas les mettre dans les Alpes. Même si l'idée, c'est de ne pas les faire tout court. Si on peut les dégager des Alpes, c'est déjà ça de prix, quoi.
Question non pertinente pour là de ma part, plutôt bouquet de muguet pour le 1er mai ou plutôt feu de Bengale?
Alors j'avoue, j'ai jamais compris cette histoire de bouquet de muguet, donc clairement feu de Bengale, ouais.
Toi, t'es là pour quelle raison? Genre trois trucs qui te tiennent à cœur et qui font que t'es là aujourd'hui?
Principalement parce que je suis anticapitaliste. persuadée que c'est le poison du système actuel et que toutes les luttes convergent autour de ce thème-là. Et voilà.
Que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad.
Trois semaines, trop d'enfants, ça commence à suffire. Pourquoi les mecs veulent se radicaliser? Parce que la direction est radicale.
Vamos a querer
qu'on a la rejoindre.
Desde la historique,
qu'on passe nos nuits sur le budget. C'est pas pour le fun, pas pour le plaisir. La question est claire.
Les poussons cercles à la muerte.
Aquí se queda la clara.
Et donc aujourd'hui, gros trajet. En fait, aujourd'hui, la tentative de la direction, c'est un peu d'opposer les sous-traitants aux travailleurs de Total en disant voilà, c'est à cause de vous, s'ils peuvent pas travailler, c'est à cause de vous, c'est si vous allez perdre votre emploi parce que demain, ils bloquent les travaux, ils empêchent aux travailleurs qui montent les échafaudages d'accéder aux. Du coup, on a dit clairement aux sous-traitants, en fait, nous, on voudrait même internaliser le service qui monte les échafaudages. On voudrait qu'il n'y ait plus d'intérimaire chez vous, plus de CDD. On voudrait tous que vous soyez en CDD chez Total avec le même bleu compte. Parce qu'on n'est en réalité pas des donneurs d'ordre, mais des gens qui sont ensemble, qui faisons tourner cette outil de travail depuis des années. Et donc, la direction, elle, voilà, elle nous jette un peu les uns contre les autres. Et donc, ce qui a été décidé en AG, c'est de dire, ok, très bien. Donc, on va vous montrer qu'on est capable de faire un pas vers les travailleurs. En disant, voilà, on va accéder à certains travaux qui traînent depuis des années et qui en fait, font dans notre intérêt aussi de les démonter pour des raisons de sécurité. On va les laisser chercher. Donc, on va sélectionner les travaux les uns contre les autres. Parce qu'on va être très sympa.
Il y avait une volonté d'écraser, de faire en sorte qu'on ne revienne plus.
En 2023, Paul Guilibert publie « Exploiter les vivants, une écologie politique du travail » aux éditions Amsterdam. Le 25 septembre 2023, Bertrand Vaillant en propose une recension, accessible sur le site de la Vie des Idées. En voici un extrait. Comment réconcilier les travailleurs et l'écologie? En rappelant que celle-ci doit s'intéresser aux modes de production, autant que de consommation. Se constituerait alors un communisme du vivant, dont Paul Guilibert esquisse les concepts fondamentaux. Entre les travailleurs défendant leur usine, leur voiture et par là leur indispensable accès au salaire, et les militants écologistes défendant la décroissance, les communs non marchands et la sobriété énergétique, l'incompréhension est-elle inévitable ? Elle peut sembler fatale, surtout s'ils se perçoivent mutuellement comme des urbains déconnectés de la réalité des classes laborieuses et comme des barbares inconscients du dérèglement climatique, à civiliser de toute urgence. Mais cette opposition, parfois bien réelle, n'est pour le philosophe éco-marxiste Paul Guilibert ni féconde ni insurmontable. Elle est toutefois favorisée par la faible place que tient le travail dans les discours écologistes contemporains, souvent centrés sur la consommation plus que sur la production. Associant les outils conceptuels du marxisme écologique contemporain au courant de pensée critique féministe, antiraciste et décoloniale en sciences sociales, l'auteur, Paul Guilibert, entend donc œuvrer par ce livre à la constitution d'un bloc commun autour d'un communisme du vivant qui intègre l'ensemble des rapports de domination dans leur diversité irréductible tout en les articulant autour de l'exploitation capitaliste du travail sous toutes ses formes. L'alliance entre travailleurs, militants écologistes et mouvements citoyens est non seulement possible, mais déjà réalisée dans certaines luttes locales. Campagne conjointe pour la protection sociale des camionneurs et la diminution de la pollution dans le port de Los Angeles en 2006. Projet ouvrier de reconversion écologique de l'usine sidérurgique de Tarente en Italie ou de la raffinerie de Grandpuits en France. Syndicat de forestiers américains articulant droit du travail et protection des forêts depuis le début du XXe siècle. Pour favoriser ces convergences encore rares, Guilibert propose un cadre conceptuel et stratégique commun susceptible de fédérer les acteurs de lutte trop souvent séparés, qu'il avait seulement esquissé en conclusion de son précédent livre « Terre et Capital ». Il brille par sa capacité de synthèse et de clarification conceptuelle, qui pourrait bien faire de l'ouvrage un classique des mouvements progressistes contemporains, et propose des mots d'ordre efficaces sans entrer encore dans des stratégies de lutte bien définies.
Donc, merci de l'invitation. Donc, je m'appelle Nils Amorli. Là, je suis en première année de thèse en sociologie et en sciences politiques. La thèse porte sur la transition énergétique du raffinage en France. Et donc, il y a deux cas que j'étudie dans ma thèse. Le cas de Grandpuits, un autre cas qui est une autre raffinerie totale, qui est la raffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, effectivement, là, ce que je vais vous parler, c'est plutôt mes recherches de M2, hein, dont la thèse est la continuité. Mais cet article, c'était lors de ma recherche de M2 qui portait vraiment... Le M2 s'intitulait « Les appropriations socialement différenciées de la transition énergétique à la raffinerie de Grandpuits ».
Première partie, les multiples visages de l'exploitation.
Ok. Alors, pour commencer, c'est quoi l'usine de Grandpuits ?
Ouais, alors l'usine de Grandpuits, donc c'est une raffinerie. Donc c'est une usine dans laquelle arrive du pétrole brut. Et en fait, tout le fonctionnement de l'usine, c'est de transformer ce pétrole brut en différents produits utilisables, principalement des carburants, donc ce qu'on met dans notre voiture, quand on met du diesel, du sans-plomb, ça a été traité en raffinerie. Et donc toute l'usine, en fait, c'est des usines qui fonctionnent en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et donc c'est tout le temps, ça fonctionne continuellement, donc le travail en raffinerie consiste, alors il y a plein de postes différents, mais en fait c'est de que la raffinerie tourne en continu et de regarder s'il n'y a pas de problème et de traiter les problèmes quand ils arrivent et en essayant d'arrêter la raffinerie. Ça c'est aussi une politique industrielle de Total qui veut absolument minimiser les arrêts parce qu'un arrêt égale des pertes de profit. Mais il y a quand même quelques grands arrêts, ce qui s'appelle des grands arrêts, c'est tous les... 3 ou 6 ans ou 4 ans, ça dépend des raffineries, ça dépend des fois où en fait là la raffinerie va être arrêtée pour qu'il y ait tout un tas de travaux qui peuvent pas être faits en continu dessus.
Et il y a combien d'ouvriers qui travaillent ?
Alors, c'est parfois difficile d'avoir les chiffres précis et même les chiffres, il y a des combats de chiffres entre les syndicats et la direction, principalement sur les suppressions d'emplois, mais en fait c'est du coup aussi un combat de chiffres sur combien de personnes y travaillent. Mais en gros, de base, avant la reconversion, il y avait 450 salariés qui travaillaient pour Total. Mais c'est aussi ce qu'il faut souligner sur cette industrie, c'est qu'il y a beaucoup de sous-traitance. Donc il y a énormément d'entreprises sous-traitantes et beaucoup de salariés sous-traitants. Et c'est assez difficile d'avoir des chiffres précis pour les sous-traitants parce qu'il y en a qui viennent tout le temps à l'année, sur des années. Il y en a qui viennent un mois, une semaine, un jour. Donc c'est comment est fait ce calcul-là. Et comme je parlais des grands arrêts tout à l'heure, bah, quand il y a des grands arrêts, il va y avoir plus de sous-traitants, donc c'est ça qui peut expliquer les différences de chiffres. Mais en tout cas, il y a au moins, au départ, au moins 300 sous-traitants en équivalent temps plein. Si on calcule les équivalents temps plein, ça ferait ça. Mais encore une fois, les chiffres sont pas forcément les mêmes selon la direction des syndicats. Mais on est en tout cas sur près du millier de salariés.
Ok.
Il y a eu, donc, en septembre 2020, il y a eu ce qui s'appelle un PSE, un mal nommé plan de sauvegarde de l'emploi, parce que dans les plans de sauvegarde de l'emploi, en général, on supprime des emplois. Et donc, où on est passé, alors c'est là où il y a la bataille de chiffres assez importante. Selon Total, on passerait de 400, on supprimerait 150 postes directement employés par Total et 100 postes de sous-traitants. Et la CGT locale parle de 700 suppressions d'emplois. Donc voilà, c'est que déjà, ils expliquent que Total ne prend pas en compte les CDD, les intérimaires dans les suppressions de postes directs, mais qu'aussi en termes de sous-traitants, ils estiment que le calcul est mal fait par la direction, parce que ça ne prend pas justement tous les sous-traitants qui viennent par période ponctuelle. Voilà, et donc ce qui fait que, alors c'est un peu la spécificité du PSE, c'est qu'il y a des suppressions de postes mais pas de licenciements. En fait, Total joue beaucoup là-dessus pour dire voilà, nous c'est un PSE responsable, on fait des reconversions responsables et justes. Donc comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait des suppressions de postes sans licenciement, au moins pour les salariés directs, c'est qu'il y a des départs en pré-retraite jusqu'à 5 ans avant. Et en fait c'est Total qui paye les 5 ans de pré-retraite aux salariés, où il y a aussi pas mal de mobilité vers d'autres sites.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'affaire de Grandpuy, qu'est-ce qui en fait une singularité parmi les mobilisations sociales? Ça commence en 2020, c'est ça?
Ouais. Alors, déjà, il faut peut-être souligner que j'ai commencé par parler de la reconversion avant de parler de la mobilisation. Donc la reconversion, donc la raffinerie en septembre 2020, Total annonce la fin de l'arrêt de la raffinerie dans les mois à venir pour transformer la plateforme en une plateforme dite zéro pétrole. La reconversion, c'est donc très concrètement, au départ, le projet de départ qui a évolué depuis, c'était de faire une unité de bioraffinage. Donc ça, c'est ce qui reste le plus près du raffinage de base, mais c'est du coup à faire avec des biocarburants, ou plutôt des agrocarburants, et donc pour faire de l'éthanol, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, ce sera pas pour l'être, enfin, c'est pour faire du biojet, en fait, cette reconversion à Grandpuy, donc c'est pour faire du carburant pour les avions. Après, il y avait un projet d'usine de bioplastique, de faire du plastique à partir principalement de sucre, d'amidon, de betterave, à travers un processus quand même compliqué, c'est pas juste on prend le sucre et on le transforme comme ça. Mais le projet a été annulé, l'annulation a été annoncée en juin 2023.
Et excuse-moi, du coup, depuis cette annonce en fait de projet en 2020, c'est ça, septembre 2020, par Total de suppression, les actions syndicales elles commencent du coup en début 2021, c'est ça?
Ça, en fait, dès le début, en fait, même avant. Alors, ce qu'il faut, un autre élément de contexte, plusieurs éléments de contexte à souligner, j'essaie d'être assez rapide. D'une part, pour la reconversion de Grandpuy, elle fait suite, en fait, à une rupture du pipeline qui alimentait la raffinerie. Donc, c'est un pipeline qui venait du Havre, et donc il y a eu deux grosses fuites en 2014 et en 2019, où il y a des endroits en 2019 dans les Yvelines où ont été inondés de pétrole brut. Et donc, en fait, Total a fait les inspections du pipeline et il était pas réparable. Ce que les syndicats dénoncent, c'est que c'est parce que ça n'a pas été entretenu, en fait, et qu'il n'y avait pas d'argent qui a été mis dans la maintenance de ce pipeline. Mais en tout cas, donc, depuis, en fait, ce que tous les salariés me disent, ça c'est vraiment, tout le monde en parle, disent, depuis les problèmes du pipeline et qu'ils savaient que c'était pas réparable, en fait, ils s'y attendaient. Et donc, en fait, et puis même, enfin, ouais, il y a différents éléments qui leur faisaient penser qu'ils sentaient bien que l'usine allait fermer. Déjà, ça avait déjà un peu été préparé en amont, mais en fait, dès l'annonce, il y a des choses qui se sont mises en place. Il y a eu, en fait, entre septembre 2020 et décembre 2020, des épisodes de grève de 24 ou 48 heures. Il y a eu beaucoup de travail syndical qui a été fait. Ils ont commencé à communiquer là-dessus. Enfin, c'est beaucoup la CGT hein, qui communiquait vers l'extérieur, vers les médias, etc., ce qui n'était pas trop le cas des autres syndicats. Il y a un premier rassemblement qui a été organisé en octobre à La Défense, devant le siège de Total, où là c'était plutôt un rassemblement syndical majoritairement, avec du coup des syndicats d'autres industries, soit des industries de l'énergie comme du nucléaire, d'autres industries chimiques. Il y avait aussi d'autres syndicalistes des autres raffineries de la CGT principalement. Concrètement, du coup, au niveau syndical et ouvrier, il y a eu donc des petits épisodes de grève de 24-48 heures entre septembre et décembre 2020. Et à partir du 4 janvier 2021, il y a eu une grève reconductible d'une quarantaine de jours jusqu'au 11 février 2021. Et en fait, c'était pendant que le PSE était discuté et devait être au final validé par les organisations syndicales dans des conseils centraux sociaux et économiques. Et donc, en fait, l'idée, c'était pendant ce temps-là, et en fait, parce que en début janvier, on a commencé à demander, ou même dès fin décembre, on a commencé à demander aux ouvriers d'arrêter l'usine, de mettre hors service, enfin, en tout cas, de déconnecter des unités, etc. Et donc, ils ont dit, les ouvriers et les syndicats, ils ont dit non, il n'y a pas de PSE qui est signé, il n'y a rien qui est fait, on ne va pas commencer à démanteler l'usine avant même que on en ait, enfin, avant même qu'il y ait des choses qui se passent, avant qu'on ait garantie sur l'emploi, etc. Le propos de la grève, c'était de dire le mot d'ordre principal, c'était l'emploi. Ça, il faut quand même le souligner, c'était vraiment une grève contre les suppressions d'emplois. Mais cette alliance, elle est venue par-dessus pour dire voilà, c'était. L'idée de Total fait du greenwashing, Total doit faire plus écologique, c'était pas un mot d'ordre principal de la grève. Hein. C'était quelque chose de porté seulement par la CGT. Parce qu'en fait, la grève, elle était faite en intersyndicale entre la CFDT, la CGT et FO.
D'accord.
Voilà, donc l'idée c'était de faire une grève pour l'emploi, mais la particularité c'était que ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, mais Total a toujours refusé toute discussion, toute négociation sur l'emploi. C'était bah, pour les salariés directs de Total, c'était 250 postes, pas un de plus, pas un de moins.
Le livre se compose de 3 chapitres. Les 2 premiers proposent une redéfinition du capitalisme et de la crise écologique, dont il est la cause principale, et le 3e, avec la conclusion qui le suit, réfléchit aux moyens et objectifs stratégiques de lutte contre ce capitalisme écocide. Il s'agit donc d'élaborer une écologie politique marxiste, à la fois comme théorie et comme pratique, opposée aussi bien aux injonctions jugées moralisatrices de l'écologie libérale qu'à un écofascisme autoritaire.
C'est indirect par rapport à Campy, mais un effet de ce mouvement, c'était... en fait, il y a le collectif Plus Jamais Ça qui s'était formé en 2019 et 2020, donc qui était une alliance au niveau national, confédéral ou des unions syndicales et des organisations écologistes. Donc il y avait en fait dedans une alliance entre, du côté syndical, il y avait la CGT, la FSU, Solidaires principalement. Et du côté écolo, il y avait Greenpeace, les Amis de la Terre, Attac, Oxfam, etc. Et donc en fait, cette alliance, enfin ce collectif qui est aussi une alliance, qui aujourd'hui s'appelle l'Alliance écologique et sociale, en fait, il vient d'une université d'été d'Attac en 2019, où c'était justement fin du monde, fin du mois, même combat, qui est un slogan qui est vraiment né au moment des Gilets jaunes et des marches climat en même temps. Et donc, c'était aussi une réflexion directe de ces organisations, en tout cas des dirigeants et dirigeantes de ces organisations, de dire, bah voilà, ce mouvement nous fait réfléchir, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Et donc, là où je dis que ça a eu un effet indirect sur Grandpuits, c'est que ce collectif-là a soutenu Grandpuits. En fait, au niveau des organisations écolos, c'est les mêmes personnes qui étaient dans l'Alliance nationale qui se sont alliées au niveau local. Donc, en fait, c'est tout un processus qui était assez... voilà, c'est des choses qui, ces dernières années, se font de plus en plus.
Oui, parce qu'on comprend bien les raisons de la mobilisation des ouvriers de Grandpuits. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à une alliance avec des écologistes ?
Ouais, alors, y a pas mal de raisons à ça. Et en fait, l'article que tu citais en introduction, c'est tout l'article qui explore cette question-là. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, voilà, effectivement, aujourd'hui, on se dit qu'une alliance entre des syndicalistes et des écologistes, c'est quelque chose qui va pas de soi, c'est quelque chose qui paraît complètement antagoniste, avec, on aurait le stéréotype des syndicalistes et des ouvriers qui voudraient seulement sauver leur emploi et qu'on aurait rien à foutre de préserver la planète, et à l'inverse des écolos qui ont rien à foutre des conséquences sociales. Aujourd'hui, dans le contexte actuel et même déjà celui du début de l'alliance, les choses sont quand même un peu différentes. Je pense qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu quand même un gros mouvement qui est passé par là, qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, qui a vraiment mis à l'agenda cette question de on ne peut pas faire de l'écologie sans le social, et on ne peut pas avoir d'écologie contre les plus précaires, contre les plus pauvres, contre les classes populaires, etc. Donc je pense que ça a pas mal, ça a changé des choses chez une partie des organisations écolo, parce que du coup, de fait, vu qu'il y avait aussi, en fait, c'est intéressant quand même, il y avait le mouvement des Gilets jaunes, et en même temps, il y avait les marches climat qui commençaient, et donc ça... Il y a des travaux qui montrent que voilà, il n'y a pas eu forcément de convergence très directe, mais en fait chaque mouvement a un peu influencé l'autre. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ne pouvaient pas ne pas se positionner sur les questions environnementales, et à l'inverse, les écologistes devaient se positionner sur les questions sociales et devaient le prendre en compte. C'est montré dans l'article, c'est que ça dépend des organisations écolo, parce que pour certaines organisations écolo, comme les Amis de la Terre, c'est quelque chose qui va plus de soi, d'aller s'allier, d'aller chercher à discuter avec les ouvriers, les salariés des sites en conscience. C'est pas toujours simple, notamment il y a eu pas mal de fermetures de centrales de charbon ces dernières années, et ça a été plus compliqué. Mais en tout cas, c'est plus traditionnel pour eux d'aller porter ces questions. Pour Greenpeace, c'est très différent. Et justement, Greenpeace, au début, le militant de Greenpeace avec qui j'ai parlé, qui était dans l'Alliance de Grandpuits, il dit que c'était pas évident au niveau de Greenpeace, hein, que d'aller s'allier avec des ouvriers, qu'il y avait des tensions en interne, que d'autres personnes de Greenpeace disaient ils avaient peur que leur public pense qu'ils abandonnent l'écologie, qu'ils vont défendre le pétrole, etc. Mais donc il y a quand même une volonté, même une organisation comme Greenpeace se dit qu'il a plus intérêt aujourd'hui à s'allier que ne pas s'allier, parce que ce qu'ils expliquaient, c'est que eux, ils commencent à faire face à de plus en plus de critiques d'être des écolos bobos qui mangent du quinoa et qui roulent en vélo et qui n'ont rien à faire des enjeux sociaux. Donc ils ont aussi intérêt à dire nous on fait ça, et même c'est pas que de l'intérêt, c'est qu'aussi même en tout cas des militants qui portent cette alliance, ils sont convaincus de la nécessité d'aller discuter et de faire des choses avec les ouvriers, et ils pensent que ça apporte vraiment quelque chose à la façon de penser les enjeux écologiques. Du côté CGT, c'est qu'on a deux militants qui sont aussi membres d'un parti trotskiste qui s'appelle Révolution Permanente, et donc c'était en fait aussi dans le cadre de toute la pensée de ce parti, de dire il faut faire des alliances entre le monde ouvrier et les autres forces du mouvement social pour faire construire une force hégémonique au niveau du mouvement ouvrier. C'est pas qu'une question d'organisation, c'est une question d'individu, et ça dépend qui est-ce qu'on a. Et en fait voilà, c'est que localement au niveau de la CGT, y a des militants à la fois qui donc effectivement sont dans cette organisation trotskiste, mais qui plus généralement sont extrêmement sensibilisés aux questions écologiques. Il n'y a pas que ces deux-là, et c'était un des résultats de mon mémoire, c'est qu'en fait voilà, il y a quand même un certain nombre d'ouvriers, pas tous, mais qui sont extrêmement sensibles à ces enjeux-là, et qui ont par exemple voilà, au niveau de ces deux militants-là, qui vont lire Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, et qu'on ils disent comme ce qu'on dit, voilà, l'idée de prise de conscience écologique est souvent un peu discutable, mais en tout cas tout le monde en parle comme ça, dire il y a une prise de conscience, qui lit les résumés des rapports du GIEC depuis 2014, il y en a un autre à CGT qui vote pour les Verts depuis qu'il a 18 ans, enfin voilà, on a des choses quand même, voilà, c'est pas ce qu'on imaginerait en premier quand on parle d'ouvriers d'une raffinerie. C'est de montrer que quelque chose d'assez classique en sociologie, c'est pour qu'il y ait des milieux sociaux éloignés qui se rapprochent. C'est souvent en fait des acteurs qui sont un peu aux frontières, ou en tout cas c'est les acteurs les plus proches. Donc quand on a un milieu ouvrier, c'est les acteurs les plus proches des milieux écolos, ou en tout cas plutôt des classes moyennes supérieures, qui vont faire le pont. Et en fait, juste pour finir là-dessus, il y a le même mécanisme un peu en miroir chez les écolos, c'est-à-dire que c'est pas n'importe lesquels écolos. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est ceux qui étaient déjà familiers des milieux syndicaux. Il y en a un qui était dans les sommets altermondialistes où il y avait pas mal de syndicats. Mais c'est aussi, voilà, en fait, tous les militants écolos que j'ai interrogés ont fait des études de sciences sociales qui savent pas, et c'est quelque chose d'assez classique, c'est que ça a des effets assez politisants. Donc c'est ceux les plus politisés, les plus sensibles aux questions sociales par leur pratique, leur trajectoire, qui vont aussi du côté écolo faire le pont avec les milieux ouvriers.
Les deux premiers chapitres construisent une caractérisation du capitalisme comme un système de dévalorisation des conditions de la vie humaine et non humaine. Le capital ne peut s'accroître sans priver de toute valeur ce qu'il a besoin de s'approprier gratuitement. Qu'il s'agisse des ressources naturelles et des écosystèmes, des corps des populations colonisées, ou du travail reproductif essentiellement réalisé par les femmes.
On a vu le fait que donc, quand cette alliance elle se construit, donc, il y a l'objectivation d'un adversaire commun, donc à savoir Total, pour montrer qu'il y a à la fois des coûts écologiques et une casse sociale, mais tu parlais aussi du rapprochement social entre les militants. Mais donc, après aussi dans ton article, tu reviens sur donc, cette ambiguïté constitutive, et tu dis en gros que, à la fin du coup, tu dis qu'il y a des stratégies d'évitement aussi des sujets conflictuels. Et ça, notamment, tu dis qu'il y a aussi une temporalité qui est peu propice justement à clarifier potentiellement ces conflits. Est-ce que tu peux revenir sur ça aussi?
Carrément. Donc, en fait, l'idée du coup de ce que tu évoques et de cette dernière partie de l'article, c'est de dire, voilà, même s'il y a effectivement un certain nombre de choses sur lesquelles les militants et militantes sont d'accord, qui en fait, on peut dire, c'est une majorité de choses, en tout cas le fait que Total fait pas de la vraie transition énergétique mais du greenwashing, sur le fait qu'il faut pas faire de suppression d'emplois quand on fait de la transition écologique, c'est qu'il faut faire de la transition écologique et à minima garder des emplois, voire même en créer. Mais en fait, la finalité politique des différentes organisations, des différents militants et militantes n'est pas forcément la même et peut y avoir des désaccords par ailleurs, mais en fait, c'est aussi ce que montre un certain nombre de travaux en sociologie des mouvements sociaux, c'est que quand il y a des alliances, voilà, qu'on peut qualifier d'improbables, en tout cas entre des organisations de milieux et de cultures très différentes, pour que ça marche bien, il ne faut pas forcément aborder les désaccords tout de suite. C'est qu'il faut commencer par créer du commun et avoir un objectif commun, tu disais justement un adversaire commun, pour que ça fonctionne. Mais donc, ce qui fait que et même en fait c'est même un principe, je parlais du collectif Plus Jamais Ça, entre les syndicats au niveau confédéral, au niveau des unions CGT, Solidaires et Zorga Écolo, c'est même un principe de dire on ne parle pas, au moins dans un premier temps, en fait on va plutôt parler et agir ensemble sur ce qui nous met d'accord, qui est l'essentiel, et les désaccords on pourra en parler mais plus tard, et on va d'abord commencer par faire ensemble, parce que si on se focalise sur les désaccords on va jamais faire de choses ensemble en fait. C'est pas quelque chose qui apparaissait à grand puits, mais sur ce collectif au niveau national, c'est la question du nucléaire qui est extrêmement clivante. C'est-à-dire que la CGT est plutôt pro-nucléaire, Greenpeace est complètement anti-nucléaire. Mmh. Et en fait, il y a des historiques aussi de tensions et de conflits entre ces organisations, du fait même de ces positions, enfin, des différences de position sur le nucléaire. Et donc, le pas de côté qui a été fait, c'est de dire « Ok, on n'est pas d'accord là-dessus ». Mais on est d'accord sur tellement d'autres choses que si on reste à se focaliser sur quoi on n'est pas d'accord, on va pas y arriver. Mmh. À grand puits, c'est un peu pareil, mais c'est moins conscientisé ou pas conscientisé de la même manière selon les militants. C'est-à-dire qu'il y en a qui me disent explicitement « on a fait en sorte de pas parler de ce qui nous mettait pas d'accord », alors qu'il y en a d'autres, typiquement de la CGT, qui disaient « on aurait pu justement parler de ces désaccords parce que c'est intéressant, mais c'est aussi justement dans leur... ceux qui sont en révolution permanente, ça fait partie du fonctionnement de l'organisation d'objectiver des accords avec tout un tas d'autres acteurs pour justement créer du débat et eux montrer que c'est plutôt leur pensée et leur mode d'action qui est le plus juste et le plus pertinent. Mais donc, en fait, ce qui fait que si... Voilà, s'ils allaient tout de suite débattre de pourquoi est-ce qu'on fait cette alliance, côté écolo, il n'y a pas forcément de vision, enfin, pas forcément d'objectif politique extrêmement poussé, ou bien justement, ma Greenpeace, il y a l'idée que Greenpeace est apolitique, donc on ne va pas faire de politique, et à l'inverse, il y en a d'autres qui sont membres de partis politiques, même cette appartenance entre Greenpeace qui est apolitique, des militants de Révolution Permanente, ils m'ont dit, voilà, ça aurait pu poser problème, finalement ça a été, mais c'était quand même quelque chose qui pouvait susciter un peu des tensions, et voilà, c'est pas des choses dont ils ont parlé, ils n'ont pas posé le problème sur la table, parce que si tout de suite on pose le problème sur la table et on va parler de ce qui nous met pas d'accord avant d'avoir fait vraiment un socle commun, ça peut mettre en danger l'alliance. Dans le passé, il y a déjà eu ce genre d'alliance, en fait là où on en retrouve le plus, c'est dans les années 70, pendant les mouvements antinucléaires. Mmh. Du coup, il y avait des alliances entre... c'était la CFDT à l'époque qui était très active sur ces questions-là, et des organisations écolo. Il y avait déjà les Amis de la Terre, il y en avait d'autres, je ne sais plus les noms en tête. Et en fait, au bout d'un moment, c'est justement parce qu'il y avait des désaccords que en fait, la CFDT n'était pas antinucléaire, mais elle était contre le tout nucléaire. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait diversifier les infrastructures énergétiques de la France, pas faire que du nucléaire, alors que des écolos étaient parfaitement anti-nucléaire. Donc au bout d'un moment, ça a posé problème et ces désaccords ont éclaté et du coup ça s'est éloigné. Donc, c'était sur les modes d'action, sur quelles manifestations il fallait faire, jusqu'à quel niveau de violence on allait, etc. Et donc voilà, c'est aussi un peu un classique de ce genre d'alliance, c'est que quand il y a des accords qui sont trop forts, en fait les gens arrêtent d'agir ensemble. Donc parfois éviter le désaccord, ou ce que j'explique dans mon travail, c'est que parfois il y a une euphémisation, c'est-à-dire que les écolos, aujourd'hui encore, c'est les écolos dans cette alliance, ils sont dans l'idée de faire que de la non-violence, des actions non-violentes, etc. Mais c'est le répertoire d'actions écolo non-violence, c'est quelque chose de voilà, de très spécifique et de très délimité. C'est de faire des, par exemple des die-in ou de, voilà, d'aller protester, d'aller faire un rassemblement, mais pacifique, de se laisser faire face aux forces de l'ordre quand ils interviennent. Et donc, voilà, il y a un moment, quand ils, et du coup, les écolos, pour agir avec les syndicalistes, ils leur ont dit, bah, faut que vous fassiez une formation de non-violence parce que nous, c'est une condition. Les syndicats ont joué le jeu, mais voilà, par moments, ils se moquaient un petit peu, mais gentiment, en disant, bah, voyez, nous, on fait une grève, c'est un mouvement d'action, c'est quelque chose de non-violent, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est à 10 000 km des cultures militantes écolos, ce qui change un peu, et typiquement ce que tu évoquais en introduction sur, pendant des manifs comme le 1er mai, il y a des écolos qui viennent plus, effectivement, voilà, mais c'est des changements qu'on commence à observer, et ça devient plus si exceptionnel que ça, même si il y a quand même tout un tas de conditions qui sont jamais systématiquement réunis. Et là où cette alliance et plus généralement la politisation de cette grève, quand je dis politisation, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui sont venus, donc je parlais de révolution permanente où il y avait pas mal de militants et militantes qui étaient, mais il y a aussi eu des prises de parole de dirigeants et dirigeantes de la France Insoumise, de ELV, etc. Et donc en fait ça, localement, ça a été très compliqué pour la CGT, c'est-à-dire qu'en fait aux élections qui ont suivi le PSE, la grève, etc., la CGT a perdu pas mal de scores aux élections.
Deuxième partie, une mise au travail généralisée des vivants. Paul Guilibert va néanmoins plus loin, en liant cette mise au travail des êtres humains à une mise au travail généralisée des vivants par le capitalisme. L'idée que les animaux travaillent, par exemple, ne va pas de soi. Et l'anthropologie a distingué de nombreuses sociétés sans travail. Paul Guilibert défend de manière convaincante un concept de travail applicable aux seules sociétés connaissant une division sociale du travail, et donc une séparation du temps de travail et du temps libre, et aux seuls animaux engagés au sein du travail humain dans des relations de contrainte, la vache à lait en agro-industrie, ou de coopération, le chien guide d'aveugle. Certes, la plupart de nos activités de subsistance, depuis le néolithique, sont fondées sur cette mise au travail de la terre et des vivants, sur la connaissance et l'exploitation des interdépendances qui permettent de cultiver, d'élever, de domestiquer les vivants, et ce de manière écologiquement soutenable. Mais la production capitaliste, elle, use de tous les moyens techniques disponibles pour intensifier, jusqu'à l'épuisement, ces processus d'engendrement naturel. Loin d'ignorer les interdépendances existant dans la nature, dont les philosophes naturalistes nous appellent avec raison à prendre conscience, le capitalisme opère une mise au travail des interdépendances, insoutenable et destructrice. L'auteur propose donc une vue synthétique des manières de s'approprier la nature, qui distingue l'appropriation des forces naturelles, aux sources donc déjà existantes, et la mise au travail des vivants et des relations écologiques. Celle-ci donnant lieu dans le capitalisme à une domination plus ou moins complète des processus vivants. Guilibert propose de classer les degrés de cette domination du vivant en s'inspirant des quatre modalités de la subsomption des processus de travail de Marx. L'aboutissement en est la subsomption totale de la vie, lorsque les processus génétiques et métaboliques des vivants sont entièrement intégrés, exploités et modifiés en vue du profit.
Bon, là, c'est une question plus personnelle de ton avis. Quelle perspective ça ouvre pour le reste des mouvements sociaux et écologistes? Est-ce que l'alliance, ça marche? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Alors, on a parlé de pas tout de suite aborder les désaccords. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça peut se passer dans d'autres contextes? Voilà, un peu.
Est-ce qu'on peut faire un communisme du vivant?
Est-ce que ça peut se passer dans d'autres contextes? Oui. Est-ce que ça peut se passer systématiquement? Là, c'est plus compliqué. En fait, c'est que ce qu'on repère en sociologie, en sciences politiques, c'est des conditions qui font que les conditions ne sont pas toujours réunies. Ça dépend des individus, ça dépend des secteurs dans lesquels on est, ça dépend des passifs entre les différents acteurs entre eux. Donc je pense que c'est, cette annonce de Grand Puy, elle est assez symbolique. Elle a quand même été relativement médiatisée. Alors, pas dans les grands médias, à la télé, mais quand même, ça a pas mal été couvert par la presse. Dans les milieux militants, ça a fait parler aussi. Je pense que non, cette alliance, et plus généralement toutes les alliances de ces dernières années, oui, elles ouvrent des perspectives en disant on peut pas ne pas faire ensemble. Mais ça reste quand même toujours compliqué. Par exemple, je parle du collectif Plus Jamais Ça. Et en fait, la CGT est partie du collectif Plus Jamais Ça et ça a été un énorme point de tension lors du congrès de la CGT de l'année dernière, où il y a une partie des opposants à la direction sortante de la CGT qui était portée par Philippe Martinez. Philippe Martinez était à la direction, il y avait une opposition qui disait nous on a un problème avec ce collectif, c'est pas toujours tant sur le fond que voilà, il y a des histoires politiques internes à la CGT qui disaient ça a été porté que par le haut de la CGT, ça n'avait pas été discuté en interne. Ce qui n'empêche pas que voilà, même avec la nouvelle mandature, il y a des commissions environnement à la CGT, il y a quand même pas mal d'événements qui s'organisent pour penser l'industrie de demain, penser comment est-ce qu'on fait la transition écologique de manière juste. Et il y a des dialogues qui se maintiennent. Après, tout est susceptible d'évoluer, mais ça montre que c'est fluctuant en fait. Un changement de direction dans une organisation peut faire en sorte qu'il y a une alliance qui se fait plus ou qui se fait plus de la même manière. Ça reste compliqué. Et typiquement, en fait, il y a une partie de la CGT, notamment la CGT énergie où c'est nucléaire, ils ont dit non, on ne peut pas. Il y avait aussi ce truc-là de dire on ne peut pas s'allier comme ça sans discuter avec des acteurs qui sont fondamentalement anti-nucléaires. Mais non, je pense que. En fait, c'est le constat que les militants ont fait au départ, et je pense que c'est un constat qui pourra être amené à se faire de plus en plus, qui est de dire ils ont tout à gagner à agir ensemble, en fait. C'est que, vu qu'il y a aussi une montée des questions écologiques dans le débat public, et voilà, moi j'utilise de prise de conscience de l'urgence environnementale, fait que, je pense que ce sera de plus en plus rare les salariés qui n'ont vraiment rien à faire. Encore une fois, ça existe, mais comme partout. Mais la question, ça reste comment est-ce qu'on fait ? Et donc, c'est toujours, en fait, je ne sais pas si Grand Puy peut être un modèle, parce que ça dépendra toujours des conditions locales, des termes du débat, de quoi on est en train de parler, est-ce qu'on parle d'une fermeture d'usine, est-ce qu'on parle d'une loi qui interdit un produit, parce qu'il y a eu le grand débat en ce moment, et je ne sais pas trop comment ça se passe niveau alliance avec des écologistes, mais c'est sur l'interdiction des polluants éternels, les PFAS. Ça, de ce que j'en sais, voilà, il y a aussi des syndicats au niveau local qui vont dire il faut pas qu'on soit contre cette interdiction, il faut qu'on continue à produire ce qu'on produit mais sans ces polluants. Mais il y avait la direction, je crois que c'était de SEB, qui a payé des bus pour qu'une partie des salariés aille manifester main dans la main avec la direction devant l'Assemblée nationale contre l'interdiction. Ah ouais. Et au contraire, il y avait notamment un endroit, je ne sais plus le nom localement, il y a une CGT qui a dit non, on ne va pas faire ça, on est pour l'interdiction, mais du coup, on n'est pas pour la suppression de nos industries non plus. Il faut qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on fait. Parce que c'est important, parce que c'est polluant, effectivement, il ne faut pas que ça nous empoisonne et que ça empoisonne la santé de ceux autour. Voilà, je ne sais pas s'il y a des contacts qui ont été pris entre les organisations écologistes, parce qu'il peut y avoir des alliances un peu plus discrètes aussi, parce que Campus a été pas mal publicisé, médiatisé. Voilà, je pense que on fait pas trop de futurologie, donc dire qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas, mais je pense que ça peut être des sources d'inspiration, et je pense que c'est pas les seuls à faire le constat de on a tout à gagner à agir ensemble. Quoi.
Troisième partie, des exploitations différenciées à la lutte commune. Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire, écrivait Lénine dans Que faire. Mais la théorie révolutionnaire qui permettra de faire converger toutes les luttes vers l'abolition du capitalisme, sans nier leurs revendications spécifiques, est encore en construction. C'est bien à cette construction qu'entend participer ce livre, en proposant un cadre théorique commun pour les mouvements intellectuels et militants progressistes. En remettant la question du travail au cœur des réflexions écologiques, il s'agit de dénoncer le mode de production capitaliste comme cause essentielle et adversaire principal dans la crise écologique, en mettant en évidence une même logique de mise au travail et d'aliénation destructrice à l'œuvre dans la diversité des rapports de domination des humains et des non-humains. Il s'achève donc logiquement sur un certain nombre de considérations stratégiques, appuyées sur des exemples de mouvements sociaux réels alliant défense des travailleurs et protection de l'environnement. L'enjeu principal qui motive ces considérations est celui de la décroissance de la production. Nécessaire, pour Paul Guilibert, elle n'en est pas moins un repoussoir, donnant lieu à d'incessantes critiques universitaires et politiques, souvent caricaturales, et séduisant essentiellement des éduqués supérieurs dont le salaire et la dépendance au marché est assez supportable pour changer de style de vie, plutôt que des travailleuses et des travailleurs précaires. Cette opposition de groupe sociologique est utilisée par le capital pour constituer un bloc hégémonique transclasse où les travailleurs et les capitalistes font face à un mouvement écologique décroissant qui s'opposerait à leur intérêt commun, la poursuite illimitée de la production. Il convient donc de briser cette tentative d'élaborer un nouveau compromis de classe fédéré contre l'écologie antiproductiviste. Tout autant d'ailleurs que celui qui unirait travailleurs et capitalistes blancs et nationaux contre les populations racisées et immigrées, sur fond de peur du déclin et de la pénurie. Paul Guilibert propose pour cela le mot d'ordre du communisme des vivants, un communisme décroissant, mobilisant pourtant un nouvel imaginaire de l'abondance, celle-ci étant faite de relations plus riches et satisfaisantes entre les vivants plutôt que les marchandises. Le rationnement pourrait toucher avant tout les plus riches et les biens les plus superficiels, et résulter dans une augmentation générale de la qualité de vie pour tous ou la plupart. Faut-il le signaler, c'est bien ce que revendiquent déjà les partisans de la décroissance depuis les années 1970, qui ont toujours proposé une autre vision de l'abondance résumée dans le slogan « plus de liens, moins de biens ». L'auteur, Paul Guilibert, s'appuie entre autres sur le dernier ouvrage de l'éco-marxiste japonais Kohei Saito, auteur d'une récente défense d'un communisme décroissant, Marx in the Anthropocene, Towards the Idea of Degrowth Communism, Cambridge University Press, 2023, qui met en évidence la convergence des revendications communistes les plus essentielles et d'une décroissance de la production. Parmi ces convergences, une production sociale visant les valeurs d'usage et non le profit, la réduction du temps de travail, la suppression de la division du travail et la rotation des tâches pénibles, l'abolition de la compétition marchande et l'abolition de la division entre travail manuel et travail intellectuel. Quatrième partie, organiser le prolétariat écologique. Si ce mot d'ordre d'un biocommunisme qui planifie la décroissance en multipliant les communs naturels ou sociaux paraît plausible, le cœur de la tâche est dans la direction stratégique qui en découle. Identifier les forces sociales capables de transformer le rapport de force écologique. De ce point de vue, on peut trouver que l'ouvrage ne fait qu'effleurer quelques pistes et n'échappe pas à la tendance générale des ouvrages éco-marxistes à espérer en conclusion la constitution d'une nouvelle classe révolutionnaire, d'un prolétariat écologique, d'un biotariat, dirait Jason Moore, intégrant travailleurs, mouvants citoyens et même animaux, qui seraient capables de faire la révolution, mais dont on ne voit guère par quel biais ils pourraient se constituer, étant donné la variété des situations, des rapports de domination et des espaces géographiques en jeu, pour ne pas parler des espèces. L'auteur, Paul Guilibert, souligne toutefois la distinction entre une classe techniquement constituée de tous les vivants exploités, et l'alliance politique de certains secteurs de cette classe capable de mener une lutte réelle. Que les porcs fassent partie de la classe ouvrière au sens des vivants exploités et mis au travail n'implique pas qu'ils représentent une force révolutionnaire. On peut de plus penser qu'il est de bonne politique marxiste de ne pas imposer de haut une stratégie, mais de proposer des outils conceptuels qui permettront au mouvement réel d'auto-organisation de la classe ouvrière d'être plus efficace, ce que le livre s'efforce de faire. La conclusion insiste sur l'importance de maintenir la dimension internationaliste et antiraciste de ce biocommunisme contre une tentative écofasciste et nationaliste. Le traitement de cette question en conclusion fait penser à une prise de conscience finale des risques d'une position centrée sur le travail et l'anticapitalisme. Ce dernier n'est pas nécessairement émancipateur et progressiste. Le fait qu'une analyse conséquente du capitalisme mette en évidence la structuration raciale et sexuelle du prolétariat n'implique pas que le mouvement se revendiquant de l'anticapitalisme, voire du communisme, serait par là même antiraciste, féministe ou vraiment écologiste. L'auteur pose incidemment mais pertinemment le problème. De véritables communs impliquent des règles d'exclusion, des accapareurs, de ceux qui n'en respectent pas les règles. S'il est important de souligner, comme il le fait, le danger que ces règles soient celles d'un État-nation ethnicisé, il faudra bien penser ces règles d'exclusion, penser la délimitation de nouvelles communautés politiques et non pas seulement rejeter celles qui renforcent l'ordre existant. Conclusion de cette recension, vers un syndicalisme éco-marxiste. Exploiter les vivants n'a pas la prétention de résoudre toutes les difficultés qui s'opposent à l'émancipation des masses, mais de donner des outils conceptuels inspirés à la fois du marxiste et des courants critiques contemporains, pour accorder au travail, plus qu'à la consommation, une place centrale dans le mouvement écologiste. C'est une étape de synthèse et de proposition, et de ce point de vue, c'est une réussite. L'ouvrage sera aussi utile aux familiers de ces questions qu'à ceux qui ne connaissent que le nom des concepts de capitalocène ou de plantationocène, d'extractivisme ou de féminisme de la reproduction sociale. Même s'il aurait pu utilement faire aussi usage de références un peu moins contemporaines, mais toujours pertinentes, et qui articulaient déjà travail, écologie, communisme et décroissance, comme l'écosocialisme d'André Gorz, de Murray Bookchin ou de Michael Lowy, les travaux d'Ivan Illich sur la société conviviale ou les études d'Henri Lefebvre ou Neil Smith sur la production de l'espace et de la nature dans le capitalisme. On peut aussi regretter que le travail soit surtout envisagé comme un enjeu conceptuel permettant de délimiter des catégories exploitées et pas davantage sous l'angle de nouveaux rapports au travail concrets, y compris avec la nature et les animaux, que permettrait le biocommunisme. Peut-être parce que si le mot d'ordre est fédérateur, son contenu concret est source de désaccords et d'interrogations encore non résolues. Sa redéfinition du capitalisme, centrée sur la dévalorisation des conditions de vie et l'activation pathologique des processus naturels, éclaire toutefois utilement les effets écocides et impérialistes de ce mode de production, et permet, mieux que beaucoup de courants de l'écologie contemporaine, de nourrir une pratique écologique concrète, collective et combative. Si les moyens de constituer en classe une un prolétariat écologique international ne sont pas encore clairs, et pour cause, on peut imaginer que de tels travaux nourrissent par exemple un syndicalisme renouvelé, associant écologistes et travailleurs, ouvriers de l'élevage industriel et défense des animaux qui en sont victimes, agriculteurs et protection des sols, ouvriers des raffineries et sorties planifiées des énergies fossiles, mais aussi prolétariat des banlieues et des campagnes, et tout cela au nom de la libération du travail. Clarifier nos concepts pour nous donner une meilleure prise sur le réel, voilà bien en tout cas la tâche du philosophe Paul Guilibert.
Les pauvres prennent la voiture, aiment le plastique, ils abîment la nature. Les pauvres sont feignants, fument trop, font leur course à Auchan. Les pauvres sont agressifs, ils font du bruit, leurs gosses sont mal polis. Ils prennent des douches trop longues, ils mettent le chauffage en hiver. Toi tu télétravailles dans ta ville en terre paille. Tu pars en vacances en voilier, tu parraines un bébé chimpanzé. Tu portes des slips en peau de banane, entièrement fabriqué en France. Oui, t'as acheté des chaussures en plastique, mais pour chaque paire, acheter un petit arbre et planter.
J'aimerais que tu meurs dans ton lombricomposteur, que les vers te digèrent, que tu retournes à la terre. Il faudrait que tu meurs, que puissent pousser des fleurs.
T'as planté un arbre, hein, tu veux une médaille, hein. Quand un pauvre utilise une paille, tu en fais tout un foin. Tu préfères boire dans des nouilles. Responsable, éco-transition chez Total. Parfois tu rentres, tu cries, c'est pas Versailles. Ici, t'as pas la lumière à tous les étages. Tu ne vas plus au bar à masse, tu te laves le cul. Un jour sur deux, tu tires la chasse. Une fois sur trois, ta femme de ménage essuie les plâtres. Ton rêve, c'est que les gens respirent l'air pur.